Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif « Les interviews d'Éric Cooper », j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Éric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est une chanteuse belge. Elle s'appelle Sabine Anyone. Mais c'est plus qu'une chanteuse. C'est une artiste authentique qui puise dans ses expériences pour créer une musique vibrante, sincère et porteuse de sens. Et je lui ai tendu le micro pour lui poser, pour démarrer l'interview, trois questions. Sabine, trois mots pour vous décrire.
Alors, dans le vif du sujet, paf, comme ça. En trois mots pour me décrire... Ça va être vraiment très très difficile. Créative, amoureuse, je ne sais pas pourquoi ça me vient, amoureuse de la musique, humanité.
Alors est-ce que chanter c'est quelque chose que vous faites depuis toujours? Est-ce que c'est un peu inné chez vous la chanson?
Je pense pouvoir dire que oui, parce que depuis toute petite, voilà, d'après ma mère, mais c'est souvent ce que les mamans disent de leurs enfants qui chantent ou qui jouent de la musique, je chantais avant de commencer à parler. Donc c'est vraiment mon premier langage en fait. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de chanter, mais comme ça, sans y réfléchir, sans le travailler. Voilà, comme une chanteuse de salle de bain, comme j'aime bien dire.
Et vous avez eu le soutien de la famille, alors, quand vous avez dit, voilà, je vais me lancer dans la chanson à 100%?
Alors oui, mon cas est un peu particulier parce que, en fait, je n'ai personne dans ma famille qui est issue du milieu de la musique ou qui en fait, tout simplement. Même si j'ai deux parents qui ont quand même une très, très bonne oreille musicale et qui sont assez mélomanes, en fait, finalement. Donc ils ne m'ont jamais poussée quand j'étais petite, ils ne m'ont jamais mis à un cours de chant, etc. Ils ne m'ont jamais freinée non plus. Et le jour où j'ai dit, ben voilà, je veux faire de la musique, j'ai eu une partie de ma famille qui m'a dit, ah c'est très bien, voilà, on va voir ce que ça donne, mais donc sans vraiment ni trop y croire, ni ne pas y croire non plus. Et une autre partie qui a pris ça comme un non-sujet, un non-événement, comme si c'était un hobby ou une lubie, voilà.
En préparant cette interview, vous m'avez dit, j'ai appris à jouer au piano toute seule. C'est pas possible, il faut prendre des cours quand même pour jouer au piano.
Alors merci de me lancer là-dessus parce que non, je vais vous contredire. En fait, j'ai acheté mon piano donc sur le tard, passé 30 ans, et j'ai simplement réfléchi un petit peu à comment j'avais besoin de ressentir et traduire la musique que je pouvais avoir dans la tête. J'ai trouvé, c'est même pas moi qui l'ai créé ce système, il y a une chanteuse qui donne des cours de chant aussi, je ne sais plus, que j'ai trouvé par hasard sur YouTube, qui proposait un système où elle mettait une couleur par touche de piano. Donc j'ai un petit peu customisé, c'est Pimp My Piano, on pourrait dire. Je l'ai customisé et en fait dans les premières minutes, juste en pianotant, en faisant des accords de base, donc j'ai cherché les positions des doigts sur internet, je faisais les positions de doigts et je me rendais compte qu'en fait j'arrivais déjà à broder des mélodies, il y a des choses qui venaient, rien que comme ça, et j'ai continué sans le moindre cours de piano. Je ne suis pas une bonne joueuse de piano, par contre ça me permet vraiment, pour moi c'est un instrument de composition qui me permet de traduire tout ce qui me vient musicalement en tête. Voilà, comme ça, les auditeurs et auditrices peuvent se dire qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer et qu'il ne faut pas non plus une maîtrise exceptionnelle, être un virtuose de l'instrument pour créer avec. Voilà.
Votre nom de scène, Sabine Anyone, il vient d'où? C'est votre vrai nom ou bien c'est... Il vient d'où en fait?
Donc à la base, j'avais commencé donc ce premier projet avec le nom de Sabine parce que j'avais vraiment envie... Donc c'est mon vrai prénom. J'avais envie de venir telle que je suis, j'avais pas envie de me créer un avatar, un personnage, parce que finalement il y a tellement beaucoup de textes qui sont très personnels. Et donc j'avais envie de venir comme moi, comme moi-même. Et ensuite, Anyone, pourquoi j'ai rajouté ça en cours de projet? Parce que déjà, pragmatiquement parlant, Sabine, on ne trouvait pas. Il y a tellement de Sabine qu'en fait, sur Spotify ou autre, on ne trouvait rien du tout. Enfin, on en trouvait plein, donc on ne me trouvait pas dans la masse. Et Anyone, parce que, à nouveau, ça rejoint l'idée, avec cet ajout, d'avoir quelque chose de à la fois personnel avec Sabine. Et Anyone, c'est très universel. Je veux que ce que je raconte, que ce soit personnel ou non, je veux que ça parle à un maximum de gens, raconter des histoires et bien dire qu'en fait, tout ce dont je parle, ça pourrait être de n'importe qui. Anyone, de l'anglais, c'est quiconque, en fait. Voilà. Et puis ça donne un petit côté mystérieux que j'aimais beaucoup aussi, Anyone. Voilà.
Et donc, ce nom reflète un petit peu votre vision de votre musique, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Et donc, Sabine, qui quelque part est assez francophone, parce que je suis francophone aussi à la base, de langue maternelle. Et Anyone, ça rajoute le côté aussi anglophone, parce que ma musique, je la fais en français, en anglais, et parfois je mélange les deux langues aussi. Ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, justement.
Ce n'est pas difficile de chanter dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle ?
Alors non, parce que avec le temps, j'ai quand même acquis un niveau d'anglais suffisant que pour pouvoir... Et j'écoute en fait vraiment beaucoup d'anglais aussi. J'écoute une majorité de musique en anglais avant d'écouter de la musique francophone. Finalement, l'anglais, c'est une langue qui est très musicale, qui permet beaucoup de choses. Et donc, même si je n'aurais jamais le même niveau en anglais de qualité d'écriture que ce que je pourrais avoir peut-être dans une écriture complexe francophone, je pense que j'ai déjà de quoi faire beaucoup de choses, pouvoir faire de la poésie aussi en anglais. Donc, c'est... Voilà, moi, ça me vient quand même assez facilement, en fait.
C'est quoi les artistes que vous écoutez ?
Oh, il y en a tellement, 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 tellement. Je vais citer beaucoup de noms anglophones. Ce qui me vient là comme ça, Sam Smith, Adele, Sia, The Weeknd, dans les moins connus, il y a Banks, je pourrais citer aussi Lana Del Rey que j'aime beaucoup, il y en a vraiment tout plein, tout plein. Et dans les francophones, ben voilà, un des premiers qui me vient, Slimane, voilà, Musti, qu'on a également évoqué, qui va chanter pour nous à l'Eurovision. Voilà, il y en a plusieurs. Mais Musti, c'est anglophone, en fait, maintenant que j'y pense. Il est belge, mais c'est de l'anglophone quand même.
Votre histoire, elle est inspirante. Hein. Elle a mis du temps à... Vous avez mis du temps à réaliser votre rêve. Et 2020, ça a été un moment qui a déclenché un changement radical. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire. En quoi est-ce qu'elle est inspirante ?
Alors ça, je vais laisser les auditeurs et auditrices le juger de si elle est inspirante ou pas. Mais pour reparler un petit peu de la genèse de ce projet, de comment tout ça est arrivé. Oui, 2020, donc c'est une période qui a été particulière pour tout le monde, puisque le monde s'est un petit peu arrêté de tourner à ce moment-là. Il y a eu le Covid, les confinements, et en fait, le hasard de la vie a fait qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée sans emploi. Je sortais d'une très longue formation qui a été très éprouvante. Et en fait, j'étais un petit peu perdue parce qu'au moment de trouver justement un emploi dans ce nouveau secteur, tout s'est fermé, tout s'est verrouillé. Vraiment, c'était une ambiance très morose au niveau du marché de l'emploi. Et je ne sais pas, de fil en aiguille, de discussion en discussion avec certains de mes proches, il y a une graine qui a été semée. En fait, l'idée, c'était que je fasse quelque chose en musique. Je ne savais pas très bien quoi. Et donc, en fait, c'est le premier moment de ma vie où je me suis dit, dans cette période particulière, je vais lâcher prise. Je vais y aller à tâtons, complètement par essai erreur. Je vais acheter un piano, m'y mettre sur le tard, voir ce qu'il en découle. Puis j'ai appelé le magasin où j'avais acheté mon piano pour voir s'il connaissait du monde dans la musique qui pourrait me permettre de concrétiser des choses que je créerais. On m'a donné le nom de le premier producteur musical que j'ai connu et avec qui j'ai collaboré. Ça s'est fait très naturellement, d'abord à distance pendant le confinement. Et en fait, vraiment de fil en aiguille, presque par hasard, tout s'est déroulé de cette manière, finalement, de manière très fluide.
Votre premier single, c'est en 2021, en juillet. C'est un peu comme un premier bébé, un premier single. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Oui, c'est le mot bébé est exact parce que je parle de mes chansons comme de mes bébés musicaux. J'ai ressenti d'abord énormément de fierté, énormément, parce que c'est un... Donc le titre, c'est « Won't Go to Heaven ». Et j'étais fière autant de la chanson, des paroles, de l'arrangement aussi qu'on a fait avec le producteur musical. Le clip aussi, parce que le clip, c'est moi qui l'ai imaginé en fait. J'ai dû remuer ciel et terre, Ça va bien avec le thème de la chanson d'ailleurs. J'ai remué ciel et terre pour trouver l'église dans laquelle on allait tourner ça. J'ai trouvé les figurantes aussi. Enfin voilà, tout le projet, c'est un titre, le premier, où vraiment j'ai fait toute la direction artistique. Et je suis très fière de ce titre parce que tout en étant de la musique pop, donc assez légère, assez dansante, assez même un peu sensuelle pour celui-là, il y a quand même du fond, ça parle quand même de libération féminine, mais pas seulement, hein, ça pourrait s'adresser à n'importe qui finalement. Ça parle de confiance en soi, ça parle du fait de ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on et de rentrer dans les cases et d'être avec audace qui on a envie d'être. Donc voilà, ça c'est mon premier bébé musical.
On a parfois des documentaires qui présentent des groupes qui viennent en concert, ils arrivent avec 3, 4, 5 camions, il y a des dizaines de personnes qui les aident. Pour une chanteuse comme vous qui démarre, c'est difficile de trouver des personnes pour vous aider pour votre projet musical ?
Alors, je vais dire oui et non parce que... Donc oui, parce que je trouve que jusqu'à présent, ce n'est pas facile de s'entourer d'une bonne équipe qui croit en nous et qui veut investir dans un projet qui démarre. Et non, parce que je n'ai pas encore beaucoup investi non plus la recherche. Donc, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais effectivement, quand on démarre comme ça, sans équipe, de rien, de zéro, en fait, on est seul et on fait tout. Donc, moi, en concert, je suis ma propre ingénieure son. C'est moi qui prépare mes séquences, c'est moi qui arrange mes morceaux, c'est moi qui gère le logiciel musical de type Ableton ou Logic. Donc en fait, on doit apprendre et se former sur énormément de choses sur le tas. On doit commettre des erreurs, on doit se planter à des moments. Et voilà, innover, être créatif et patient, persévérant en fait.
Alors vos chansons sont des récits personnels, ça veut dire que quand on les écoute, on apprend à vous connaître, vous vous ouvrez un petit peu, je ne vais pas dire vous vous dénudez, mais vous vous ouvrez un petit peu, vous faites connaître des choses de vous qui sont peut-être intimes aussi, non ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, elles ne sont pas toutes forcément personnelles parce que j'aime bien raconter des histoires que m'inspirent d'autres personnes ou des faits d'actualité. Mais il y en a qui le sont énormément, qui sont même des mises à nu totales. Il y en a notamment donc, sur l'EP Apparaître de If I Could Fly et Nobody Knows Me. Ce sont des chansons mais d'une intimité incroyable. Je me suis ouverte avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, je pense, sur ce que je vis, ce que je ressens, que ce soit personnellement par rapport aussi à la musique, parce que If I Could Fly parle beaucoup de mon rapport et de mes peurs par rapport au fait de me lancer dans la musique. Et de toute manière, la musique que je fais... témoigne de ce que finalement je ressens, de mes opinions, même de mes opinions politiques, si on pourrait dire, parce que je fais aussi, alors il n'y en a pas eu encore qui sont sortis, mais dans les tiroirs, moi je sais ce qui arrive, il y a des chansons qui sont très très engagées aussi, donc pour des causes qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je fais un peu tout ça, des histoires, de l'engagement, du fond, du personnel aussi beaucoup, et de l'émotion, parler d'humanité quoi.
Est-ce que c'est facile de transformer toutes ces expériences, ces blessures, ces combats en musique ?
Je dirais oui. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très, très instinctif. En fait, si j'ai quelque chose à dire, ça va venir tout seul. Donc il suffit que je sois honnête envers moi-même et que je me lance sur un thème qui vraiment me parle. Et alors là, je sais que la chanson va arriver en quelques minutes, en fait.
Et lorsque vous êtes en concert... ces performances live reflètent aussi vos émotions ?
J'essaye en tout cas, j'essaye vraiment en live de rendre le show vivant, de partager, échanger, connecter avec le public, de les faire soit bouger ou soit vibrer dans les balades et de vraiment interpréter ce que je raconte et ce que j'écris. J'essaye vraiment de le transmettre et que voilà, les gens le vivent avec moi.
Donc vous vous considérez comme une chanteuse engagée ?
Oui, maintenant ce terme est un petit peu restrictif dans le sens où je n'ose pas me décrire uniquement comme ça parce que ça laisse entendre que toutes mes chansons sont forcément des chansons à texte, vraiment politiques, vraiment engagées. Ce n'est pas non plus le cas. Je fais aussi de la chanson engagée et je fais de la chanson beaucoup plus légère, personnelle, des histoires. Donc je fais un peu de tout en fait.
On parlait d'engagement. Quel est votre message ? Quel est le message que vous avez envie de faire passer au travers de vos chansons ?
Alors, si je reprends ici l'EP pour avoir du plus concret dans ce qui est déjà sorti, je pourrais dire que deux chansons sont assez engagées. Il y a Won't Go to Heaven, la première dont j'ai parlé. Celle-là parle évidemment beaucoup du droit des femmes, donc elle est très féministe. en son essence, très moderne, très inclusive, progressiste. J'avais d'ailleurs dans le projet, je n'ai pas réussi à le faire, mais comme ça ceux qui nous écoutent le sauront, j'avais dans le projet d'avoir aussi une femme trans dans le clip. Je n'ai pas su la trouver à temps par rapport au délai de tournage, mais c'était l'idée vraiment d'avoir aussi, on le voit dans le clip, des femmes de tous les physiques, de toutes les couleurs de peau, de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les cultures, et c'était très important pour moi. J'avais voilà, dans l'ambition même d'avoir une femme voilée, je n'ai pas non plus su la trouver à temps. Mais voilà, ça c'est pour moi mon engagement, le féminisme, ça fait partie des choses. Il y a la chanson Wake Up, qui est le dernier titre au moment où on fait l'interview, qui est sortie avec son clip. Ça c'est une chanson très engagée, qui parle de la situation des réfugiés, en fait. Et voilà, le clip parle pour lui-même, et c'est une chanson vraiment très... Le clip n'est pas facile à regarder, j'ai versé quelques larmes en le faisant. Voilà, donc il y a plein de sujets de société qui me tiennent à cœur aussi d'aborder.
Bien que c'est une question difficile, hein, puisqu'on a difficile à vous coller des étiquettes, mais si on devrait coller une étiquette, c'est quoi votre genre de musique ? On parlait de pop, de soul, c'est quoi exactement ?
Oui, alors pour déjà l'EP qui est sorti, pop, c'est absolument vrai. Ce que j'aime faire, c'est de la pop métissée, en fait. Donc il y a beaucoup de soul, parce qu'au niveau vocal, je pense qu'étant petite, j'ai beaucoup écouté de musique soul, gospel, etc. Et donc... Ça m'a formée, et donc ça se transmet de toute façon. Quand je chante, il y a toujours une petite touche de soul. Donc la soul, je le rajouterai. Ici, le projet est aussi pop électro. Et alors, il est hybridé avec des influences de part et d'autre, parce que j'aime énormément de styles de musique. Et j'ai l'ambition de faire la musique, une musique hybride, métissée, avec plein d'apports différents. Ça, c'est l'ambition. Et dans le projet qui suivra, il y aura encore d'autres choses que je vais proposer, mais qui restera de toute façon pop.
Racontez-nous un petit peu le processus de création de vos compositions. Comment ça se déroule ?
Ah, c'est une question à la fois très intéressante et très vaste. Le processus de création, il est vraiment multiple. Je ne pourrais pas le résumer, parce que parfois, c'est une mélodie qui me trotte en tête. Et je vais découvrir à un moment, en me mettant face à mon piano, si ça va être une mélodie plutôt instrumentale, donc que va jouer la musique, si ça va être une mélodie plutôt vocale, et là je vais commencer peut-être à faire un yaourt, et puis après rédiger un texte dessus, sur quelque chose qui m'inspire dans ce que je trouve. Parfois ça va partir d'un texte lui-même, et j'ai un texte qui me vient, des mots qui viennent sous forme de brainstorming, et en fait, au fur et à mesure, des accords vont me venir... En mêlée avec. Donc ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la musique, ça peut venir du texte, ça peut venir de cœur, ça peut venir d'un refrain qui me vient. Il y a plein de portes d'entrée, en fait, pour que la musique apparaisse à moi, en fait, si je dois le dire comme ça.
Et vos inspirations, vous les puisez où ? Vous avez toujours un petit carnet sur vous ? Ou bien ça arrive comme ça ?
Alors, je ne fonctionne pas vraiment à l'écrit. Je suis assez numérique et surtout... ce que j'essaye d'attraper, c'est surtout quand j'ai des mélodies, parce que ça, c'est très volatile. Si j'ai une idée de mélodie à un moment, d'ailleurs, je vais le révéler, Won't Go to Heaven est né entre deux champs de patates. Donc, j'étais en balade à vélo, et à un moment, j'étais avec mon compagnon. Je lui ai dit, écoute, Max, il faut qu'on s'arrête tout de suite. Et il a l'habitude, parce que voilà, ce processus, il l'a déjà vu plusieurs fois. Quand je m'arrête comme ça, je me suis arrêtée net. Un tracteur est arrivé d'ailleurs droit sur moi. J'ai mis mon dictaphone en route et j'ai eu la mélodie vocale du refrain de Won't Go to Heaven. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parfois, je me réveille la nuit et je dois vite prendre mon application dictaphone. Je l'allume ou alors je prends des notes sur mon GSM parce que j'ai une idée fulgurante qui arrive et je sais que là, il faut l'attraper extrêmement vite, sinon elle part et je ne la retrouverai pas. Voilà.
Max, c'est votre compagnon. C'est lui votre premier... Est-ce que c'est votre premier auditeur ?
Alors, j'ai cité son nom sans le faire exprès. Oui, mon compagnon. Oui, oui. Alors, c'est... Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est mon fan, parce que je ne sais pas s'il est fan de ce que je fais, mais il aime bien. En tout cas, ça, c'est sûr. Et c'est aussi l'une des personnes principales, que peut-être je pourrais citer aussi ma maman. C'est l'une des personnes principales qui a tellement cru en moi, plus que moi-même, et qui m'a poussée... peut-être même un peu lourdement, mais pour mon bien en fait, parce que moi je n'y croyais pas, je ne me croyais pas capable de pousser ce que je savais faire beaucoup plus loin, et lui il a vu ce que moi je ne voyais pas, et c'est lui qui m'a vraiment poussé à acheter ce piano, à faire quelque chose et à me dépasser, sortir de ma zone de confort.
Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Par exemple, certains mangent un morceau de chocolat avant de démarrer leur écriture, une tasse de thé, ou ils n'écrivent que la nuit. Vous, c'est quoi votre rituel ?
Je n'en ai pas. Très honnêtement, Je n'en ai pas parce que comme l'inspiration et les choses viennent à des moments ou sous des formes tellement inattendues pour moi, que la seule chose que je fais, c'est que je me tiens prête à capturer le moment, la mélodie, le texte, dès qu'il arrive. Mais en fait, je n'ai pas de rituel, je sais juste que si je me mets face à mon piano, si, en fait si, j'en ai peut-être un, c'est d'être vraiment seule, sans bruit, dans ma petite pièce dédiée à ça, sans interruption, et de me mettre vraiment dans un état de concentration, de focus, où personne ni rien ne me dérange. Ça, ce serait peut-être mon rituel en fait.
Oui. Parlez-nous un peu de l'expérience The Voice. Vous avez participé à la saison 10. Pour vous, ça a été positif ou pas ?
Alors oui, de toute façon, participer à The Voice était dans tous les cas une expérience positive parce que j'ai aussi décidé de n'en tirer que du positif. Donc, dans le positif, je retiens énormément. Bah, déjà, il y a l'expérience en tant que telle. Hein. C'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Je suis sortie de ma zone de confort. C'était vraiment chouette, vraiment fun aussi de passer les différents lives, pas les lives, mais le blind en tout cas, et le chaos, mais qui était live donc, avec le public, etc. Voir mes proches, leur partager ça aussi. Les candidats aussi, faire de belles rencontres. Ça, c'était vraiment des choses très, très positives. Et pour le reste, voilà, ça n'a pas changé grand-chose, pour être honnête, dans la suite de ce début de, j'espère, carrière. Mais voilà, j'en tire vraiment une expérience, l'expérience en tant que telle. Hein, voilà, les premières oreillettes que j'ai eues lors de mon chaos, je n'avais jamais fait l'expérience, par exemple, de ça. C'est bête, hein, mais waouh, quelle expérience d'avoir des oreillettes pour chanter, quel confort. Voilà, tout ça, je le prends et je le garde précieusement.
Alors, comment cette expérience avec The Voice a influencé votre approche musicale et votre confiance sur scène aussi ?
Alors, l'approche musicale, je crois rien du tout. Mais par contre, pour tout ce qui est de la confiance en soi, oui, ça fait partie de ce que je garde de positif parce que quelque part, c'est venu au cas où j'avais, comme tout le monde, hein, des moments de doute ou un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est vraiment venu me conforter dans l'idée que ben, quand même, je sais chanter. En fait, j'ai quelque chose à délivrer, que je vois que la connexion avec le public passe, et quelque part ça m'a, comme je me suis sortie de ma zone de confort, de me dire maintenant je peux y aller à fond sur The Voice, la scène de The Voice, finalement je peux le faire, mais partout, sans aucune réserve, pudeur ou peur, doute en fait. Et donc je crois que le partage et l'amplitude de ma présence scénique n'en est que plus grande en fait.
Sur YouTube on peut voir 4 vidéos de vos chansons. C'est vous qui avez fait les vidéos ou bien vous avez fait appel à des personnes extérieures ?
Pour le premier titre et clip Won't Go to Heaven, là j'ai travaillé avec un studio donc professionnel. Hein. Il y avait 4 personnes, une journée de tournage. Voilà, donc ça c'est vraiment le clip le plus pro, voilà, que j'adore d'ailleurs aussi. Mais j'adore aussi les autres parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus artisanaux. Donc forcément, la qualité de la vidéo ne peut pas équivaloir, ou de la manière dont les plans sont tournés ne peut pas équivaloir au premier. Mais malgré tout, donc je les ai réalisés avec l'aide de mon compagnon, à deux uniquement. C'est des clips qui restent très chers à mon cœur parce qu'on y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour justement se former là-dessus, parce qu'aucun de nous deux n'est dans la vidéo. Hein. Nous sommes tous les deux des autodidactes qui partons de rien. Et on a vraiment fait des recherches pour pouvoir traiter l'image, donc la tourner et la traiter ensuite, moi, sur la colorimétrie, donc tout ce qui est les couleurs, les contrastes, etc., la luminosité, pour vraiment faire ressortir et qu'il y ait vraiment un parti pris artistique fort. Et si on regarde, par exemple, le deuxième titre, le clip Nobody Knows Me, voilà ce qu'on a fait et qui nous a pris des mois de travail. Hein. C'est qu'on m'a découpé en fait par rapport au décor pour me faire ressortir plus en couleur et faire ressortir le pull que j'avais blanc, qui ressort très très fort pour cette idée de pureté, pour toute une symbolique. Et par contre, le background, le fond, est resté dans des couleurs extrêmement froides, bleues, très nostalgiques. Et en fait, quand on regarde ce clip très humble, parce qu'il a été tourné à l'aide d'un smartphone et d'une GoPro, hein, donc ce qui explique aussi la différence de qualité d'image. Celui-là, voilà, c'est le moins qualitatif en termes d'image, mais quand on voit ce qui a été réalisé, je pense, j'ai eu des retours très positifs pour dire que c'est vraiment un clip où on ressent toute l'émotion du titre à travers l'image aussi.
en vous écoutant, en fait, on a l'impression qu'il y a une grosse leçon qu'on doit tirer. C'est que quand on a envie de faire quelque chose, il y a moyen de l'apprendre par soi-même et de ne pas se considérer comme peut-être inférieur. Vous avez appris le piano de vous-même. Votre compagnon a appris à faire de la vidéo. Donc, ça veut dire que c'est quasiment tout est possible quand on veut. C'est un peu ça le message que vous avez envie de lancer.
Je suis absolument d'accord. C'est un très beau message. Et moi, c'est ma grande leçon de vie que m'a donnée la musique. C'était de se dire que déjà, il n'était jamais trop tard pour croire en soi, en ses rêves. Et pour peu qu'on se donne du temps et des moyens et qu'on soit patient et aussi très indulgent face à soi-même, qu'on accepte les échecs, les erreurs de se planter en cours de parcours. En fait, par essai erreur, en apprenant sur le tas, tout en restant humble et en se disant « voilà, je vais progresser à mon rythme » et en voulant apprendre et absorber, et s'inspirer des autres aussi, de ceux qui savent déjà faire mieux que nous finalement, en s'inspirant, en prenant tout ça, en fait, au fur et à mesure, on monte de niveau, on monte dans les connaissances et on se professionnalise finalement et on délivre quelque chose de plus en plus qualitatif. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi d'avoir une vision de là où on veut arriver, de ce qu'on veut véhiculer, pour donner une cohérence à un projet quel qu'il soit, hein, que ce soit même en dehors de la musique. C'est vraiment se dire, ok, à qui je veux m'adresser, comment je veux m'adresser, qu'est-ce que je veux raconter et comment je vais le raconter et l'amener en fait. Voilà.
Alors, pour les projets, il y a le EP qui va sortir, il y a d'autres projets ?
Oui, tout à fait. Donc là, ici, l'EP est quasiment sorti en totalité. Il manque en fait un titre et un clip. Qui arrive et j'ai vraiment hâte. Je ne peux pas encore annoncer de date, mais ce sera incessamment sous peu, comme on dit en Belgique. Voilà, et alors le prochain projet est déjà, les rendez-vous sont déjà pris, je suis déjà en cours de construction, donc ce sera encore un EP, donc un petit album. Cette fois-ci, je peux déjà annoncer qu'il sera quasi entièrement en français. Voilà, comme ça, je donne une autre part de moi, une autre manière de découvrir ma musique, un autre langage. Et ça restera pop. Et voilà, pour le reste, c'est à découvrir bientôt.
Ça y est, c'est fini.
Merci Sabine Anyone d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, sachez que vous pouvez aller sur son site sabine-musique.com. Et c'est maintenant qu'arrive ce qu'on appelle le call for action. Vous les auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à vous abonner aux interviews d'Eric Cooper, n'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas aussi bien sûr à faire un commentaire. Je vous remercie d'avance. Allez, que la force soit avec vous et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye bye.